Le Congrès adopte des mesures pour assurer le versement des pensions des retraités de la fonction publique, mais de l'avis de tous, il faut une réforme de fond pour sauver la CLR. L'État au soutien de la province sud, il annonce la prise en charge du dispositif de navette maritime pour le Mont-d'Or sud et prévoit des moyens supplémentaires. Le Mont-d'Or qui réunissait ce matin un conseil municipal, des mesures adoptées mais après 800 millions d'économies forcées. La province sud ouvre un cabinet dentaire au centre de santé de la famille situé à Montravel. Il remplace celui de Caméré détruit par les émeutiers de la CCAT. Et puis le drive-in reprend du service au pont des Français ce soir. Il sera désormais ouvert les jeudis, vendredis et samedis. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. L'acte 2 des mesures d'urgence en faveur de la caisse locale de retraite a été adopté à l'unanimité au Congrès ce matin. Il prévoit un certain nombre de dispositions provisoires, mais dont chacun s'accorde à dire, Gilles Ménage, qu'elles seront insuffisantes pour sauver la CLR.
Insuffisantes, contestées pour certaines par les syndicats, globalement pas satisfaisantes pour de très nombreux élus, mais nécessaires au regard de l'urgence. Si le déficit conjoncturel du régime avait pu être réduit significativement grâce à une première série de mesures adoptées l'année dernière, un autre déficit conjoncturel, celui-là, est apparu. Et c'est le 13 mai qui a changé la donne, a dit en séance Vaimoa Muliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique.
Le 13 mai qui a carbonisé le tissu économique, qui fait que la fiscalité ne rentre plus. Et donc, cette situation inédite que nous vivons depuis le 13 mai augmente ce déficit conjoncturel. La Nouvelle-Calédonie, faute de fiscalité qui rentre, ne peut s'acquitter de ses charges. C'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et donc c'est dans ce contexte que je me présente devant vous avec une nouvelle série de mesures permettant non pas de sauver la caisse locale de retraite, mais de repousser un mur.
Les mesures adoptées aujourd'hui à contre-cœur et uniquement pour éviter à la CLR de couler dès le mois prochain prévoit une nouvelle augmentation de 1% des cotisations des actifs et une nouvelle minoration des pensions de 3%, ce qui fera au total 9% en deux ans. L'une des mesures prévues par le gouvernement a toutefois été supprimée par amendement par les élus, celle qui consistait à prévoir que si la trésorerie de la CLR ne permettait pas de payer la totalité des pensions à la fin du mois, elle serait payée au prorata de la trésorerie disponible. Et c'est donc sans enthousiasme que les élus ont adopté ces mesures. Pour Sonia Bacquès et l'intergroupe Les Loyalistes, les choses ont été faites à l'envers.
Ce qui est fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait on vient chercher l'argent chez les retraités, alors qu'en fait ce sont les employeurs, certains employeurs qui ne payent pas leurs cotisations, et notamment les employeurs hospitaliers, parce qu'il n'y a pas eu de réforme du RUAM. Donc concrètement, parce qu'il n'y a pas eu de réforme du RUAM, les établissements hospitaliers ne payent pas leurs cotisations, il y a un défaut de trésorerie de la CLR, et qui ont fait payer les retraités. Donc c'est juste insupportable, la majorité indépendantiste a la possibilité de passer une réforme du RUAM. Quand ils le souhaitent, ils ne le font pas et au final, ce sont les retraités qui payent.
On va vous dire que vous aviez demandé une deuxième lecture de cette réforme.
Oui, on a demandé une deuxième lecture parce que la réforme du RUAM qui a été proposée, elle tapait sur, encore une fois sur ceux, les travailleurs, etc. et ceux qui sont en difficulté. Donc encore une fois, il y a une commission spéciale, une énième commission spéciale qui a été mise en place par le Congrès. Je l'ai dit hier en commission spéciale, nickel. Aucune commission spéciale au Congrès n'a jamais abouti à rien. Les indépendantistes ont voulu prendre la responsabilité au gouvernement. Ils font passer des réformes, ils ont la majorité, ils n'ont pas besoin de nous.
La Nouvelle-Calédonie est donc désormais dans la culture de l'urgence. Et c'est d'autant plus regrettable, selon la présidente de la province sud, qu'il existe des solutions simples. Par exemple, la carte vitale.
La carte vitale, concrètement, ça permet d'économiser 20% des dépenses de santé. Parce que tout simplement, ça évite que les gens aillent voir plusieurs praticiens, refassent des analyses qu'ils ont déjà faites. Et partout où ça a été fait dans le monde, ça fait économiser 20% des dépenses de santé. Ça, plus le regroupement des trois aides médicales et du RUAM, qui représente à lui seul 2 milliards d'économies, ce sont des économies faciles, rapides, qu'on doit faire depuis 4 ans, sur lesquelles le membre du gouvernement, Yannick Slamet, nous a dit qu'il était parfaitement en phase, mais qui ne sont pas engagées. Et c'est des réformes qui, concrètement, aurait permis d'éviter de faire payer les retraités aujourd'hui.
Autre réaction, celle du groupe Calédonie Ensemble. Pour Philippe Michel, il faut absolument arrêter de fonctionner dans cette urgence et mettre en place avec l'État un plan global de sortie de crise.
La mesure qui nous est proposée, elle est totalement injuste puisqu'elle fait peser sur les retraités de la fonction publique des efforts disproportionnés. Elle est totalement insuffisante puisqu'elle ne règle pas le problème de fond et le problème structurel. Mais elle témoigne en réalité de la situation de chaos dans laquelle la Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd'hui, ce qui nous conduit, parce qu'on n'a aucun autre choix, à devoir prendre des mesures comme celle-là. Mais je crois qu'il est plus que temps que l'ensemble des groupes politiques et l'ensemble des responsables institutionnels du pays se mettent autour d'une table avec l'État pour avoir une stratégie globale de sortie de crise, au lieu de gérer le chaos semaine par semaine, mois après mois, comme on le fait aujourd'hui.
Si tous les groupes politiques ont regretté de devoir faire peser sur les actifs et les retraités le coût de l'absence de réforme, des mesures plus approfondies sont à l'étude, a souligné pour sa part Omera Neslin pour le groupe UCFLNKS et nationaliste.
Le régime de retraite va faire l'objet d'autres travaux en commission. Nous avons un projet de loi de pays sur le bureau du Congrès et ça fera l'objet de travaux pour pouvoir prendre des mesures plus en profondeur et permettre de sauver notre système.
Ce que disent les retraités, c'est qu'une fois encore, on les ponctionne, eux, en raison justement de l'absence de réforme.
Effectivement, c'est encore, tout le monde l'a déploré aujourd'hui, c'est encore les retraités qui vont devoir payer, mais aussi les cotisants. Donc ce sont des mesures d'urgence, elles sont temporaires, donc ça aussi c'est important de souligner. Mais aujourd'hui, la CLR fait face à de réels dangers, voire de cessation de paiement, donc il est important de prendre des dispositions nécessaires et urgentes pour maintenir le paiement des retraites.
Enfin, du côté du groupe UNI, le regret est de ne pas avoir pu faire les réformes fiscales qui, selon Itu Pantiewe, auraient évité cette situation.
Ce que nous avons regretté, c'est que les actifs et puis les retraités soient mis à contribution, alors que le Congrès avait sa responsabilité, notamment sur le vote des mesures, hein, des réformes fiscales, pour pouvoir venir soutenir les collectivités qui, par derrière ou indirectement, prendraient en charge leurs charges sociales. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés, plus de 600 millions de retard de paiement des charges sociales. Donc, nous avons vraiment un souci et nous n'avons pas le choix pour prendre ces mesures. Et à l'avenir, il nous appartient de repenser notre fonction publique, son dimensionnement et puis rechercher d'autres financements.
Et notez qu'en complément des mesures adoptées ce matin par le Congrès, une partie, 600 millions de francs exactement, de l'avance de 12 milliards consentie à la Nouvelle-Calédonie par l'État, sera affectée au soutien de la CLR.
Des mesures d'urgence en faveur de la CLR dont nous reparlerons en détail demain matin sur Radio Rythme Bleu. C'est Dominique Frontier, le président du syndicat des retraités, qui sera notre invité à 7h30. Autre rendez-vous sur RRB. C'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, qui sera demain l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le bilan qu'il dresse de la situation près de 3 mois après le début de l'insurrection et sur son analyse de la situation. L'accord de Nouméa est-il en cause dans le déclenchement des émeutes et quelles sont les solutions qu'il préconise pour sortir de la crise? Harold Martin sera également interrogé sur les différentes déclarations et prises de position politique des dernières semaines. Harold Martin, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Le Conseil économique, social et environnemental était lui aussi réuni ce matin dans la salle du Conseil municipal de Nouméa. Le CESE a été saisi en urgence par le gouvernement sur un projet de délibération relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie, Gilles.
Un projet de délibération qui comporte 2 objectifs distincts. D'une part, permettre l'intégration au réseau de certains outils de stockage d'énergie, comme les fameux STEP, les systèmes de transfert d'énergie par pompage. Le législateur souhaite en effet garantir un bon niveau de contrôle de ces outils. L'autre objectif du projet, c'est la révision des modalités de fixation des tarifs publics de vente de l'électricité. Selon le gouvernement, ces tarifs doivent être fixés de façon à garantir l'équilibre financier prévisionnel du système. Et sur ce point, le CESE a insisté pour que soit prise en compte la situation actuelle des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Bruno Condoya est le vice-président de la commission du développement économique, de la fiscalité et du budget du CESE.
Aujourd'hui, on est dans une situation où les ménages sont pris à la gorge. On parle d'augmenter, de réajuster la tarification. Ça devient compliqué, mais l'énergie électrique en Calédonie est un sujet de fond qu'il faut reprendre et sur lequel on doit aujourd'hui nos institutions et nos techniciens se pencher pour qu'on arrive à un sujet cohérent afin qu'à la finale, le consommateur ne supporte pas ces écarts de tarifs par rapport à qu'on peut vivre aujourd'hui, notamment Enerqa, avec sa production sous-estimée par rapport à la distribution.
Le Conseil économique et social et environnemental qui a rendu en séance un avis favorable à la majorité sur ce projet de délibération.
Vous écoutez InfoSoir, il est 17h55.
Le monde économique reste très inquiet par la situation générée par les émeutes. Tous les voyants sont dans le rouge, nous ont dit les invités des Jeudis de l'économie, venus dans l'émission pour faire un point ce midi sur la situation économique 3 mois après le début des émeutes. La première inquiétude concerne les besoins de trésorerie des entreprises touchées. Les aides annoncées prennent beaucoup de temps, a expliqué le président de la CCI, David Guyenne.
Si on prend le chômage partiel, l'État a versé 11 milliards à la Nouvelle-Calédonie pour que la Nouvelle-Calédonie les reverse aux Calédoniens touchés par le chômage, à la perte d'activité. Et au 5 août, la semaine dernière, on n'était qu'à 53 millions sur ces 11 milliards qui ont été versés. Donc on voit bien que là, ce n'est pas qu'une question de temps, il y a bien aussi une question de volonté et il y a aussi une question de moyens qui sont mis derrière. Si on prend les assurances sur à peu près 150 milliards de dommages, on peut s'attendre à ce qu'au moins 100, 120 milliards soient reversés dans l'économie. Eh bien, aujourd'hui, on n'a que 1000 expertises finalisées sur 3000 et avec des montants d'acompte ou d'indemnités qui sont à 11 milliards. Donc on voit bien que là, il faut vraiment accélérer, mettre les moyens et on le demande parce que le Calédonien n'a pas de temps. C'est une question de survie et le critère temps est juste fondamental dans la situation actuelle.
Il faut donc accélérer les procédures car selon le président de la FINC, Xavier Benoît, chaque jour qui passe joue contre les entreprises.
On me dit c'est une question de temps, j'ai envie de bondir. C'est comme si je disais à un malade, l'oxygène tu vas l'avoir, c'est une question de temps. Patiente, il vient de partir de Paris et puis il arrivera dans 3 mois. On sera mort d'ici là. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on continue de détruire de l'économie, on continue à détruire de l'emploi et le temps, on ne l'a pas. Depuis le début, on dit on est en train de jouer une course contre la montre et cette course contre la montre, on est en train de la perdre. On arrive à 3 mois. 3 mois, ça veut dire que les premières phases de fin de chômage partiel vont commencer, les premières phases de fin de report d'échéance sociale et fiscale vont se terminer. C'est-à-dire, on va aggraver la crise et moi je le redis et je ne suis pas d'accord avec les positionnements de ceux qui nous disent il faut qu'on conditionne les aides, etc. On n'a pas le temps aujourd'hui. Donc il faut que les assureurs ils mettent les bouchées doubles et moi j'entends pas qu'on me dise au niveau des assurances c'est une question de temps et début 2025 on aura payé. Non, on n'aura pas le temps. C'est pas début 2025. Parce qu'en plus, on a un autre chantier à ouvrir. C'est maintenant comment on relance pour pas faire les mêmes erreurs. Si on a redéfini un modèle mais que quand on arrive à définir le modèle, il n'y a plus rien en Nouvelle-Calédonie au niveau économique et social, ça ne servira à rien, autant tout de suite se mettre en vacances.
La difficulté pour le monde économique, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps pour que les entreprises puissent survivre, et il faut aussi leur donner des perspectives, et là aussi le temps est précieux, a renchéri la présidente du MEDEF, Mimsy Dele.
Une fois que les assurances auront indemnisé, la question c'est, est-ce que ces fonds vont être réinvestis en Nouvelle-Calédonie ? Il faut se mettre à la place d'un investisseur qui a tout perdu, son entreprise a été brûlée, et aujourd'hui il se dit, mais sur quel marché je vais réinvestir ? Est-ce que c'est en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est ailleurs ? Et cette question-là, je pense qu'il ne faut pas la prendre à la légère, parce que les réponses à cette question, elles vont arriver dans les 3 à 6 mois, et les réformes dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, c'est maintenant. Aujourd'hui, on voit bien que les ressources fiscales de ce territoire se sont effondrées, que la Nouvelle-Calédonie ne survit que par perfusion de l'État qui finance notre système de chômage, qui finance notre système de santé, qui sinon ne pourrait même plus fonctionner. L'éducation, la sécurité, c'est aussi des questions que les entrepreneurs se posent. Et puis, quel contexte fiscal leur sera proposé demain et quelles garanties sur le long terme pour leurs investissements. Et ça, c'est les travaux sur lesquels on travaille actuellement. On discute beaucoup avec l'État depuis le début de cette crise, mais il faut également que les élus calédoniens prennent part à ces débats. Le gouvernement commence à mettre en place un début de méthode de travail pour avancer, mais pour l'instant, rien de concret.
Voilà pour ces extraits des jeudis de l'économie radio Rythme Bleu qui sont évidemment retrouvés en intégralité sur notre site internet rrb.nc. Toujours au chapitre économie, l'ouverture de l'hôtel Ouadraba à Lifou reportée. Une marche à blanc devait permettre de roder l'établissement. Elle était prévue en avril-mai, mais les événements obligent à reporter cette marche à blanc qui pourrait être reprogrammée au mois de septembre. La province, la Sodil et le groupe intercontinental sont actuellement en discussion pour revoir ce calendrier. Et puis avant la première pause de ce journal, cette info pratique pour les voyageurs qui ont prévu de se rendre aux îles Loyauté. Lundi prochain, le 12 août, une forte houle est annoncée pour dimanche et le Betticho modifie donc son programme de voyage. Le trajet du lundi est avancé au samedi 10 août, aux mêmes horaires, pas besoin de changer de billet. L'ancien billet reste valable pour les nouvelles dates. Quant au dépôt de fret prévu pour le voyage de samedi, il se fera à partir de demain matin, 7h. Il est 18h, une première pause dans ce journal. On verra ensuite que l'État va prendre en charge les navettes maritimes entre le Mont-d'Or-Sud et Nouméa.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
L'État prend en charge les navettes et les barges maritimes qui permettent aux habitants du Mont d'Or Sud de rallier Nouméa. En raison de la situation unique du Mont d'Or, l'État annonce qu'il a décidé de rembourser l'ensemble des dépenses liées à la mise en place de ce dispositif. Il va aussi accompagner la province sud dans la mise en place de moyens supplémentaires, Elisabeth Noir.
Depuis le 12 mai dernier, la province sud et la commune du Mont d'Or ont mis en place ces navettes maritimes ainsi qu'un système de barges qui permettent le déplacement des usagers et le fret des marchandises entre le Mont d'Or et Nouméa. Un dispositif exceptionnel mis en place en raison du blocage de la RP1 à la hauteur de Saint-Louis, mais cela a un coût. 200 millions ont déjà été dépensés. Cette prise en charge des navettes et des barges maritimes par l'État est bien sûr une bonne nouvelle pour la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
Que j'ai fait au président de la République le 27 juillet dernier pour lui demander un certain nombre de choses, dont d'une part la libération de la route qui n'est pas encore arrivée, mais également l'aide pour permettre aux Mondoriens de se déplacer à la fois à titre personnel, mais également avec leurs véhicules, puisque aujourd'hui les barges sont assurées par la mairie du Mont d'Or et les déplacements personnels par la province sud. Donc c'est une bonne chose que l'État assume financièrement cette liberté de circulation. Ça va s'élever pour la province 200 millions déjà dépensés et de l'ordre de 140 millions par mois supplémentaires rien que pour les navettes. Il faut ajouter à ça les barges qui sont financées par la mairie du Mont d'Or et nous travaillons sur le montant que coûterait un ferry qui permettrait de déplacer facilement des véhicules et des personnes. Projet que nous avions déjà envisagé il y a quelques années mais qui devient plus urgent, qui demandera évidemment des aménagements, des wharfs, mais qui semble important et pour lequel l'État nous dira s'il nous accompagne une fois que les études seront terminées.
L'État va également accompagner la province sud donc dans la mise en place de moyens supplémentaires, peut-être d'un ferry. Mais ce ne sont que des solutions transitoires pour répondre à l'urgence, tient à préciser Sonia Baquès.
La vraie solution, c'est évidemment de permettre aux Mondoriens de passer. On ne fait que gérer l'urgence en leur permettant simplement, dans un service qui est quand même extrêmement dégradé pour eux, parce que passer par la mer sans voiture, avec des navettes où on a, même en ayant mobilisé un maximum de bateaux, des temps d'attente importants, c'est quand même pas une solution agréable pour les Mondoriens. On espère toujours que la route va être libérée le plus vite possible. Si j'ai bien compris, l'État a mis un verrou dans l'espoir d'interpeller les personnes qui sont activement recherchées parce qu'elles ont été violentes, soit avec des gendarmes, soit avec des personnes qui sont passées sur la route. Donc en attendant, on essaye de trouver des solutions et on essaye aussi de trouver des solutions un peu sur le long terme, c'est-à-dire qu'on sait très bien que cette question de la situation de Saint-Louis, elle se reproduit malheureusement régulièrement et on ne peut pas découvrir le problème à chaque fois. L'État est compétent en matière de liberté de circulation, donc là il assume sa responsabilité et je le remercie sur cet épisode, mais il faut être prêt, le cas échéant, à d'autres épisodes ou à cet épisode qui dure encore un peu, avec des solutions qui sont plus acceptables pour les Mondoriens, pour leur permettre de travailler, de se soigner, d'aller à l'école. Donc c'est évidemment les ferries sur le moyen terme. Et sur le long terme, le viaduc est la seule solution qui permettra réellement au Mont d'Or d'être désenclavé.
Un projet de viaduc auquel se rallie d'ailleurs également le maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux.
Et dans son communiqué, l'État précise qu'un important dispositif de sécurisation est mis en place sur la commune du Mont d'Or. La route jouxtant la tribu de Saint-Louis est actuellement fermée au vu du risque important de troubles à l'ordre public et d'exactions. Le maire du Mont d'Or, Elisabeth, qui a donné des précisions sur ce dispositif.
Il est indiqué que pour permettre la réouverture de la RP1 dans les meilleurs délais, les forces de sécurité accentuent sur cette zone leur travail d'ordre public et de police judiciaire. C'est ce que confirme Eddy Le Courrieux en marge du conseil municipal qui était réuni ce matin.
L'axe de Saint-Louis est toujours fermé par deux verrous, par la gendarmerie, qui n'a pas trouvé aujourd'hui les moyens de laisser circuler la population sans être agressée. Donc il y a des négociations qui ont été lancées entre l'État, les différents protagonistes de la tribu, et c'est difficile. Aujourd'hui, je sais que les forces de l'ordre travaillent à retrouver un certain nombre de personnes qui ont participé sur le tir sur la gendarmerie, etc., etc. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai aucune nouvelle sur le délai que ça va prendre, la fermeture de ces axes, et à quel moment on va pouvoir circuler au Mont-d'Or.
Aucune idée du moment où la circulation pourra être rétablie sur la RP1, et le maire du Mont-d'Or explique les raisons de ce dispositif de sécurisation.
Plusieurs personnes tirent régulièrement sur les gendarmes. Hein. On a entendu des centaines de coups de feu, on a vu des centaines d'impacts sur les véhicules. Pour la gendarmerie, aujourd'hui, ils ne souhaitent pas mettre en péril la vie des agents sous la responsabilité des gendarmes. Mais en même temps, il faut savoir que est-ce qu'il faut aller vers un contact violent et armé ou est-ce qu'on essaye encore cette négociation et essayer de trouver comment... Voilà, je pense que l'État est dans cette stratégie-là. Moi, le maire que je suis, j'ai pas mon mot à dire en termes de stratégie, je veux dire. Mais on a des réunions régulières avec le commissaire, avec l'État, pour essayer de voir comment on va trouver cette solution. Je crois qu'on veut faire croire aux gens qu'on essaye de les asphyxier à l'intérieur de Saint-Louis pour pouvoir négocier quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est sincère. On essaye de trouver les leaders, les personnes qui veulent se mettre autour de la table et essayer de nous aider à avancer sur ce problème qui devient inadmissible, terrible pour la population du Sud. Moi, ce que je voudrais pas, c'est que ça devienne banal, ça se normalise, et puis qu'on laisse de côté avec des moyens qu'on a mis en place, certes, hein, mais qui restent quand même assez sommaires, qu'on oublie qu'il y a une population importante qui vit de l'autre côté de ces verrous, quoi.
Ne pas laisser se banaliser la situation des quelques 12 000 personnes bloquées depuis près de 13 semaines maintenant, c'est la volonté du maire du Mont-d'Or.
Tous les jours, on peut dire, on pense au Mont-d'Or Sud, c'est difficile pour le Mont-d'Or Sud, comment ils font les pauvres, etc., etc. Et je sais que c'est sincère, mais en même temps, moi, je veux pas que ça devienne juste un potin ou ça devienne un sujet qui se banalise où on parle parce qu'il faut dire quelque chose. Moi, je voudrais vraiment que chacun prenne conscience que c'est invivable. C'est invivable. Alors, la plupart des gens arrivent à se mouvoir, arrivent à se nourrir, arrivent à se soigner, etc. Mais moi, où j'ai peur, c'est qu'on oublie des gens qui sont isolés et puis quand plus tard, ben, on verra que ça aura été un drame. Moi, j'en appelle à ceux de la tribu, celles de la tribu qui souhaitent qu'on avance, eh ben, nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire sans aller à demander la venue de T1 ou le retrait du gel ou pas, quelque chose de sensé qui puisse aujourd'hui nous permettre de commencer à ébaucher une sortie de ce malheur.
Aider le Corrieux qui dénonce et condamne bien sûr les actions de la CCAT, mais qui veut surtout s'attacher à régler le problème et à trouver des solutions pour ses administrés dont il constate, dit-il, tous les jours la détresse.
Dit le Courrier qui s'exprimait en marge du conseil municipal du Mont-d'Or qui s'est réuni ce matin pour une séance essentiellement consacrée à entériner une baisse du budget principal de près de 800 000 francs de francs CFP, Gilles Ménage.
Moins de 540 millions de francs en fonctionnement, moins 250 millions en investissement et des orientations principales redéfinies autour de l'aide à l'économie, de la sécurité et de la solidarité. Les émeutes du 13 mai ont lourdement impacté le budget principal de la ville du Mont-d'Or. Des modifications adoptées ce matin par le conseil municipal solidaire face à la situation et à la nécessité de réaliser des économies, Eddie Le Courrieux, le maire du Mont-d'Or.
Il a fallu trouver 800 millions d'économies. Et pour ce faire, ben, on a touché tous les budgets, y compris celui du personnel. On est allé très loin. Néanmoins, on a souhaité garder, dans cette période de reconstruction, un volet pour aider une partie de la population qui va souffrir ou qui a souffert. On a également une aide à l'économie. On l'a vu tout à l'heure où on va mettre en place une convention avec la Chambre de métiers et de l'artisanat pour leur mettre à disposition une école. On a mis en place également sur l'espace de travail partagé une convention justement avec les gens qui n'ont plus de locaux puis qui vont devoir travailler dans différents locaux avec du matériel, etc. Donc c'est vrai qu'on a voulu un budget, qu'on continue à faire un minimum d'investissement. C'est le cas des routes, c'est le cas des réseaux d'eau, etc. Mais en même temps, c'est un budget qui aide la population.
Cette séance publique s'est tenue essentiellement ce matin à 10h afin que les conseillers municipaux du Mont-d'Or Sud aient la possibilité de siéger. Olivier Berthelot, cinquième adjoint au maire du Mont-d'Or en charge de l'environnement, fait partie des élus impactés par le blocage de la RP1 à hauteur de Saint-Louis.
C'est une adaptation nécessaire à la situation qu'on vit sur la commune. Donc effectivement, on a positionné ce conseil municipal en fin de matinée pour que tous les élus et adjoints qui résident au Mont-d'Or-Sud puissent se déplacer physiquement. C'est une situation qui est compliquée pour les 12 000 personnes qui sont de l'autre côté, puisqu'on on dépend des navettes maritimes et la météo qui va bien avec. Donc ce matin, on a affrété une navette privée pour pouvoir nous déplacer ici à Boulari. Mais au quotidien, nos administrations sont présents sur le wharf dès 3h du matin pour certains, pour pouvoir prendre la première navette, pour pouvoir se rendre à son travail à Nouméa. Donc voilà, on résiste et c'est ces mots qui ont été évoqués ce matin au conseil municipal, qu'on doit s'inspirer les uns et les autres du courage que fait preuve la population du Mont-d'Or-Sud dans cette résistance et on doit avancer avec cette force et détermination.
La mise à disposition de locaux communaux au profit de la Chambre des métiers de l'artisanat et le programme de travaux de revêtement routier 2024-2025 ont également été adoptés lors de cette séance du Conseil municipal du Mont-d'Or. Lors de cette séance, Nina Julier, pour Génération Mont-d'Or, a tenu à condamner vivement les actions de la CCAT qui, je cite, « ont durablement traumatisé la population calédonienne et notamment celle du Mont-d'Or et va faire baisser le niveau du service public ». Fin de citation.
Après la destruction totale du CMS de Caméré lors des émeutes, les urgences dentaires sont maintenant prises en charge au centre médico-social de Montravel, le seul centre qui fonctionne pour toute la province sud, Sarah Mégerie.
Jonathan Roux est aujourd'hui le seul dentiste du centre médical de la province sud. Après avoir vu son cabinet de Caméré entièrement pillé, incendié lors des exactions, le dentiste n'a pas abandonné. Aujourd'hui, il se reconstruit peu à peu et son agenda est déjà bien rempli.
Pour l'instant, j'ai le cadre, j'ai de quoi faire un examen clinique, j'ai de quoi traiter rapidement une urgence pour soulager la douleur et éliminer un risque d'aggravation. Pour tout ce qui est reconstruction, prothèse, etc., il faudra attendre que je puisse commander au fur et à mesure le matériel et ça devrait être fait, j'espère, courant du mois de septembre. On a commencé à bien filtrer par ordre d'urgence et de priorité pour que ceux qui sont le plus en souffrance passent en premier. Et pour les autres où c'est un petit peu moins urgent, on les met plutôt fin août, début septembre.
Et si le docteur Jonathan Roux a pu reconstruire un cabinet, c'est en partie grâce à du matériel d'occasion récupéré dans d'autres cabinets endommagés par les exactions.
J'ai acheté pour Montravel le fauteuil dentaire d'occasion. J'ai récupéré le désinfecteur, l'autoclave dans d'autres centres où il n'y a plus de dentistes. Et j'ai récupéré tout le matériel de tous les cabinets dentaires de la dépasse qui du coup sont inoccupés. J'ai eu beaucoup de tri, beaucoup de matériel vieux, rouillé, etc. J'ai épuré, j'ai fait un inventaire. Et là, il manque encore une commande que je dois faire pour compléter ça. J'ai acheté très peu de neuf, juste la machine radio, le capteur radio, parce que c'est ce qui était en très grosse promo et on a essayé de faire de briques et de broc, de reconstituer un cabinet complet. Je pense qu'on s'est bien débrouillé. Maintenant, il faut encore un peu d'instruments et des consommables.
Pour prendre rendez-vous au CMS de Montravel, vous pouvez appeler le 20 53 30 20 53 30.
Une opération de nettoyage cet après-midi au parc de Rivière-Salée, opération menée par l'association Solidarité RS pour préparer le vide-grenier prévu dimanche au parc. De 13h à 16h, les bénévoles de l'association et les habitants du quartier sont venus ramasser les déchets, débroussailler, passer quelques coups de balai et effacer les graffitis injurieux sur les murs et les sols. Un après-midi pour créer du lien dans une bonne humeur.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, toujours dans la bonne humeur.
Bah, ça fait du bien de voir tous les habitants de Rivière-Salée se regrouper.
Je suis venue avec une petite cousine et une amie du quartier de Port-de-Fer. Moi, je fais partie de Rivière-Star. J'en ai venu donner la main pour qu'on nettoie un peu tout partout.
Moi, c'est cet après-midi, personnellement, je vais récupérer tous les déchets que je vais trouver autour. La peinture, du débroussaillage, puis effacer sur les murs ce qui est gros mots, tout ce qui ne permet pas d'avoir une vision claire.
Puis nous, ça nous permet aussi de pouvoir se retrouver. Bon, c'est sûr, dans un contexte de nettoyage, mais même avec les habitants, ça permet aussi de, involontairement de se rapprocher aussi, de créer du lien, du contact.
Notez que le vide-grenier organisé par l'association Solidarité RS aura lieu dimanche à partir de 7h au parc du quartier. Et puis depuis le début des émeutes, le bus itinérant de la Croix-Rouge française Allée Vert a repris du service. Il était ce matin posté à Catiramona, Charlotte Coulson.
Sur place, des travailleurs sociaux et psychologues organisent des séances de relaxation ou animent des ateliers de partage des émotions. Un guichet mobile de proximité qui a pour but d'encourager le maintien du lien. Les précisions de Laurent Garnier, responsable du dispositif Allée Vert de la Croix-Rouge.
Depuis 3 mois maintenant, on fait ce qu'on appelle les missions maintien du lien, c'est-à-dire qu'on a souhaité aussi accompagner les différents quartiers du Grand Nouméa pour répondre un petit peu aussi à l'urgence. Donc là, on est plus dans une logique de dire bonjour madame, comment allez-vous, vos émotions, comment ça se passe en ce moment. Donc on se déplace essentiellement avec des travailleurs sociaux et des travailleurs psy pour générer une bulle de libération de la parole, faire des séances de thérapie brève sur un format court pour permettre aussi du mieux-être. Donc on a souhaité aussi accompagner les publics du Grand Nouméa parce qu'il y avait des souffrances nouvelles qui n'existaient pas avant. Maintenant, on a eu des expressions de besoin sur les urgences du quotidien. J'ai faim, j'ai froid, j'ai plus de toit, j'ai perdu mon travail, j'ai des stress nouveaux, je suis dans le manque de confiance en moi, en l'autre, je suis inquiet. Donc ça, ces expressions-là, on les accueille déjà et on essaie de les accompagner ou de les orienter le plus possible vers ce qui est encore existant.
Plus d'une dizaine de personnes ont visité le bus ce matin à Katiramona. Cet après-midi, le guichet mobile était stationné dans le quartier de Valsuzon à Dimbéa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, Michael Forest doit-il démissionner du gouvernement? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier. 64% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent qu'il est justifié de fermer le collège de Rivière-Salée qui a été en grande partie détruit par les émeutes. Ils sont 36% à être d'un avis contraire. 18h15, dans un instant, la dernière page de ce journal, on parlera cinéma, patrimoine et JO.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Boudin.
Avec d'abord cette bonne nouvelle sortie, le cinéma Drive-In du Pont des Français au Mont d'Or a rouvert à 18h15. Il vient de le faire. Après des semaines de fermeture forcée, le cinéma du Drive-In reprend donc ses projections en plein air. Douglas Hickson, le responsable de la programmation et de la communication du CineCity, explique que c'est grâce au réaménagement des horaires du couvre-feu que cette reprise a été possible.
Redémarrons les séances du drive-in. Alors, le drive-in ne fonctionnant qu'à la nuit tombée, il fallait attendre que le couvre-feu soit assez tard. Et on est quand même obligé de commencer très tôt, puisque les séances vont avoir lieu à partir de ce soir à 18h15. Là aussi, pour terminer pas trop tard, ça dépendra de la longueur du film. On commence avec Moche et Méchant, c'est plus court, mais il y a des films comme Deadpool qui seront un petit peu plus longs. Mais dans tous les cas, on termine pas trop tard, de manière que tout le monde puisse respecter le couvre-feu sans aucune difficulté. Nos spectateurs pourront, bien sûr, en venant à 18h15, se restaurer au snack du drive-in et retrouver les crocs rapides, enfin tout ce que l'on peut avoir, les hamburgers, et pouvoir passer une bonne soirée en famille. C'est le but du drive-in, c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est qu'on puisse proposer une sortie très familiale.
Et à Nouméa, le CineCity réaménage lui ses horaires pour s'adapter à ceux du couvre-feu. Il ouvre désormais de 13h à 20h en semaine et de 9h45 à 20h les samedis. Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur le site du CineCity. Et puis des visites guidées du bâtiment de la France australe à Nouméa sont proposées par la ville tous les jeudis à midi. Elles permettent de découvrir cet ancien bâtiment, son histoire, son patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Alexandre Treuil est le médiateur culturel et patrimonial de la ville de Nouméa.
Cette deuxième visite permet de confirmer que les gens veulent toujours s'intéresser au patrimoine. Ils sont intéressés par l'histoire de Nouméa aussi, et surtout celle de la France australe qui a une histoire qui est quand même très importante dans la vie calédonienne et dans la vie nouméenne. Alors c'est un bâtiment qui a quand même résisté à beaucoup de choses, à une guerre mondiale, à deux cyclones, un incendie. C'est un bâtiment qui a abrité quand même des groupes importants, dont la SLN, Balland, la France australe, et qui est marquant aussi parce que c'était vraiment l'un des premiers hôtels du territoire, l'hôtel du Pacifique, qui était commandé par Jacques Ducasse en 1875.
Des visites guidées permettent permettent à une vingtaine de personnes de découvrir ce bâtiment. Les visites durent une vingtaine de minutes. Elles étaient donc organisées aujourd'hui pour la deuxième fois.
Je connaissais l'ancien bâtiment et j'avoue que ce qui a été fait est tout à fait remarquable. C'est une excellente réhabilitation et en plus on peut effectivement redécouvrir l'histoire de ce bâtiment intimement lié à l'histoire de la Calédonie par elle-même.
J'ai découvert déjà à quoi il servait avant. Et surtout par quoi il est passé. Et quand tu sais qu'il est passé par un incendie, il a été abandonné, on a vu des photos, ça ressemblait presque plus à rien. Et de voir qu'aujourd'hui c'est un très beau bâtiment comme ça, ça donne de l'espoir pour ce qui se passe aussi. Aujourd'hui, tout est un peu dans le même état que le bâtiment avant, mais si on se projette, il y a toujours de belles choses à voir après.
J'ai su que c'était l'ancien consulat américain, là. Donc je voulais avoir un peu plus d'infos sur cette période-là.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette visite?
L'histoire du bâtiment. On a souvent que les murs extérieurs, mais on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, comment ça se passait. Le défilement, c'était d'abord un hôtel, ensuite on nous apprend que c'était un journal. C'est ça qui est intéressant, de voir comment les bâtiments ont vécu.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Il n'y aura pas de visite de la France australe la semaine prochaine puisque ce sera le 15 août. Rendez-vous le jeudi 22, l'entrée est gratuite mais il faut s'inscrire car les visites sont limitées à 20 personnes. Les renseignements se font à l'accueil de la France australe au 11 rue de la Somme ou alors en téléphonant au 24 49 29, le 24 49 29. C'est l'heure du sport.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
La page JO que l'on ouvre en parlant de Bassam Awem. Le Calédonien s'est en effet qualifié pour la phase finale de l'escalade de vitesse, Léo Fichou.
Et ça s'est joué sur le fil à un centième près. Le grimpeur de 39 ans a signé le huitième et dernier temps qualificatif hier pour la phase finale. Ce soir donc, dès 21h39, il sera en quart de finale avant d'enchaîner, on l'espère, pour les demi et la grande finale de l'escalade de vitesse. Après la médaille de bronze de Maxime Grousset sur le relais 4x100 mètres 4 nages, Bassam Awem pourrait apporter à la Nouvelle-Calédonie sa deuxième médaille de ces Jeux Olympiques.
Et à propos de médailles, la France tient toujours bon en haut du classement.
La délégation tricolore est quatrième avec 51 podiums, 13 médailles d'or, 17 en argent et 21 en bronze. Les États-Unis sont en tête devant la Chine et l'Australie. Ce matin, le camp français a glané 3 nouvelles médailles en taekwondo. D'abord avec Cyrian Ravé qui n'a pas eu à combattre pour décrocher la médaille de bronze, son adversaire ayant déclaré forfait. En boxe, malheureusement, Sofiane Oumia n'a pas réussi à décrocher l'or dans la catégorie des 63,5 kg. Il repart avec l'argent. Il s'est incliné donc en finale. Et puis Djamili Aboudou, lui, est monté sur la troisième marche du podium chez les plus de 92 kilos. C'est toujours en boxe. Et on reste sur le ring puisque demain matin, Bilal Benama sera en finale dans la catégorie des 51 kilos.
Alors parmi les autres compétitions à suivre, les sports individuels avec notamment du golf et une très bonne surprise.
Et oui, en golf féminin, le golf national réussit plutôt bien à Céline Boutier après la première journée, la Française est en tête avec une carte de 7 en dessous du par. Perrine Delacour s'en sort, elle, beaucoup moins bien. Elle termine à 7 coups au-dessus du par. Elle est 57e sur 60. La deuxième journée va bientôt démarrer. Et à 19h également du tennis de table, l'équipe de France masculine affronte la Chine en demi-finale du tournoi olympique. Une affiche de prestige pour les frères Lebrun et Simon Gauzy face à ce qui se fait de mieux. Devant un public acquis à leur cause, les trois Français savent que la tâche sera difficile, mais pas impossible.
On suivra aussi quelques sports collectifs, notamment du handball féminin et du basket masculin la nuit prochaine.
Le handball, d'abord, les féminines vont tenter de décrocher leur billet pour la finale olympique. Elles affrontent la Suède cette nuit en demi. Début de la rencontre à 1h30, heure de Nouméa. Et puis en basket, les coéquipiers de Victor Wembanyama tenteront eux aussi de se hisser en finale. Les basketteurs tricolores affrontent l'Allemagne à 2h30. Et on le rappelle, lors des phases de poule, les Allemands s'étaient imposés 85-71. Nuit de revanche donc pour nos Français.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et notez que c'est Kadra qui habite Nouméa qui est aujourd'hui la gagnante de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte donc un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. La question du jour était la suivante. Elle portait sur les deux coureurs français qui étaient engagés sur le marathon des JO de Los Angeles en 1984. Nous vous demandions lequel des deux s'était classé premier français. Vous aviez le choix entre Alain Lazare et Jackie Boxberger. Eh bien, la bonne réponse était Alain Lazare. En effet, le Calédonien a terminé à la 28e position de ce marathon de Los Angeles en 1984 en 2h17 et 50 secondes. Jackie Boxberger avait lui terminé en 2h22. Rendez-vous demain matin pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur Radio Rythme Bleu. Et puis, un mot de sport dans la région avec du football. Les moins de 16 ans calédoniens se sont lourdement inclinés en demi-finale du championnat océanien de la catégorie d'âge. Défaite 5-0 face aux favoris de la compétition, la Nouvelle-Zélande. Les jeunes calédoniens vont vite devoir se remobiliser parce qu'il faut qu'ils remportent la petite finale dimanche à midi pour pouvoir espérer participer à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ils joueront cette petite finale contre Tahiti qui a été sortie en demi-finale par Fidji. Voilà, rendez-vous donc dimanche à midi, c'est l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages d'altitude s'évacueront et laisseront place aux étoiles. Quelques averses concerneront encore les loyautés, l'extrême sud et l'est. Le vent de secteur est moulira autour des 10 nœuds. Il sera souvent variable faible sur la côte ouest. Les températures minimales descendront entre 16 et 18 degrés et jusqu'à 13 degrés, ce sera dans l'intérieur. Demain matin, nette amélioration avec le retour de larges éclaircies, mais encore des nuages donnant de faibles averses sur l'extrême sud et la façade est. Le vent de secteur est s'établira de 10 à 15 nœuds, voire plus de 15 nœuds sur le nord-est. Il sera variable faible sur une grande partie de la côte ouest, Jean-François.